prier sans se décourager.
Oui, il leur parla pour montrer qu'il fallait toujours prier sans se décourager.
Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Aujourd'hui, il était prévu que l'équipe d'animation paroissiale vous lise la lettre qu'elle a écrite aux chrétiens de Jean 23 suite à l'assemblée paroissiale. Un événement très douloureux fait que je vous parlerai de cette lettre après. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, entre autres ceux qui reçoivent la feuille paroissiale par internet, sont déjà au courant de quoi je vais parler. En tout cas, je commence par vous lire le communiqué de votre évêque, le père Dominique Blanchet. À la suite des communications de vendredi soir au sujet de Mgr Michel Sanquier, je m'adresse donc à l'évêque d'avant, je m'adresse à vous rassemblés pour la messe de ce dimanche. Beaucoup d'entre vous ont déjà l'information. D'autres la découvrent ce matin. Mgr Sanquier fait l'objet de mesures disciplinaires décidées par Rome pour des faits commis dans les années 90. Je mesure combien chacun de nous est touché par cette nouvelle et veux vous exprimer ma communion avec vous dans l'Eucharistie que nous célébrons ce matin. Le Christ ressuscité est victorieux de tout mal, c'est notre foi et notre espérance. Si vous n'avez pas d'autres informations, dures à comprendre. Vendredi soir, l'hebdomadaire Famille chrétienne, c'est pas le canard enchaîné, hein, c'est un hebdomadaire profondément d'église, plutôt même très traditionnel, enfin plutôt traditionnel, pas plutôt rapidement, a publié un article dans lequel il révèle que deux hommes adultes au moment des faits, les faits ont lieu en 1990, à Coutances, dans la Manche, en Normandie, quand le père Sanquier était prêtre là-bas. Ces deux hommes ont été blessés, pas au moment à chacun, au moment où ils célébraient le sacrement de réconciliation. Le père Michel Sanquier a eu des gestes totalement inappropriés. Quand on a une blessure comme ça, on la cache, on la garde, sauf que des années plus tard, 29 ans, 39 ans plus tard, je trouve, 32 ans plus tard, cette douleur est encore aussi vivace, elle casse une personne. Et donc en 2019, ces deux hommes ont parlé de ces faits à des responsables d'église. À partir de là, une enquête a été déclenchée et Rome a sanctionné le père Sanquier. C'est à cause de ça qu'il a démissionné de sa charge d'évêque. C'est ce que nous apprenons maintenant. Et ils m'ont demandé de mener une vie de prière et de silence dans une communauté religieuse en Normandie. Donc voilà les faits. Est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il y a des questions de compréhension déjà? Donc on va réfléchir pour avoir des moments de parole avec vous. Je vous redonnerai la parole en fin de messe s'il y a des questions qui viennent à ce moment-là. Donc voilà, on apprend ça ce matin, vendredi soir. Alors quand j'ai médité la parole de Dieu, j'avais ça dans le cœur, évidemment. Ce qui me touche dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le basculement de la question. Au début, Jésus s'adresse à des gens qui, comme nous, se disent « Je prie à Dieu, je prie à Dieu » et il n'entend pas, il n'agit pas, il ne répond pas. Alors Jésus raconte une parabole. Il raconte l'histoire de cette veuve qui embête un juge jusqu'à ce qu'il craque et qu'il entende. Et à la fin, la question initiale, c'est est-ce que Dieu entend? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il répond à nos prières? Et puis ensuite, Vous avez entendu quatre fois la même phrase. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, traduit autrement, c'est Jésus qui se demande, mais est-ce que les hommes entendent? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'il y en aura encore un pour me faire confiance? Et c'est vrai que quand on vit plein d'événements douloureux, alors je pense déjà à l'Ukraine, à la situation internationale, je pense, on en parle très peu, mais plein d'autres pays souffrent dramatiquement. Je pense à Haïti, je pense à Madagascar, à tant d'autres. On peut se demander, mais est-ce que Dieu entend? Et quand on a quelqu'un de malade dans notre famille et puis qui meurt, pareil, est-ce qu'il entend? Et puis la situation en France n'est pas si géniale que ça. Et quand dans l'histoire, on a appris ça, mais que fait Dieu? Première méditation, c'est que ça nous oblige à changer notre manière de comprendre. On imagine tout puissant réservant tout par miracle. Or, quand je le regarde, quand il va naître, il n'y a pas de place pour lui. Et il ne s'impose pas par la force. Pas de place pour toi à l'auberge. Et il n'a pas peur de naître vulnérable, dans le fumier, au milieu des plus pauvres. Hein, puis sur la croix, ah c'est le Fils de Dieu, descend la croix. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui transforme la réalité par magie. Hein, c'est quelqu'un qui nous a précédés dans cette humanité, cet homme. Et il choisit l'homme blessé pour se lire. C'est juste car Dieu qui prend l'homme malgré nos blessures, certaines des blessures plus fortes. Celle de l'hypersentier, c'est une blessure non seulement forte, mais qui en plus a blessé d'autres. Et voilà, Jésus choisit l'humanité blessée et nous appelle soit de vivre dans ce monde, soit si d'espérance. Dans ce monde, vis l'Évangile. Et il nous dit, ne te décourage pas. Prie, demande l'Esprit Saint. J'aime aussi les paroles de Paul à Timothée, sur l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Paul, il écrit à son copain Timothée. Paul, lui, il est en prison, et il lui dit, Timothée, depuis ton plus jeune âge, quand tu étais au Catège en 23, et que tu étais en CE2, CM1, CM2, depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Elles sont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons Jésus-Christ, en vue du bonheur, de l'amour. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé par toutes sortes de biens. Quand je vous vois à chaque messe avoir tout de suite une parole de Dieu, je me dis, mais quelle chance vous avez. Moi, je ne savais pas faire ça à votre âge. Et quand je sais que des familles lisent la parole de Dieu à la maison, quelle chance. Vous êtes équipés pour vivre, pour grandir, pour aimer. On est équipés, mais la parole de Dieu n'est pas une garantie contre toutes nos fragilités. Par exemple, il se trouve que le père Saint-Thier, avant d'être évêque, était professeur de la parole de Dieu. Ça, c'est toujours redondant. Mais il y a des gens, on a tous nos fragilités, puis il y en a qui en ont plus fortes que d'autres et qui sont coupés en deux, je ne sais pas comment dire. La parole de Dieu ne résout pas tout. Mais ce que je garde du Père Saint-Thier, c'est son insistance pour qu'on crée des maisons d'évangile. Son insistance pour goûter la parole. Ça, c'est du souffle. Alors oui, prions sans nous décourager. D'abord pour tous ceux qui sont victimes de personnes ayant des failles fortes. C'est à elle qu'il nous faut penser en premier. Encore plus, quand ceux qui blessent sont des personnes d'Église. Prions sans nous décourager pour tous ceux qui sont ébranlés par ces révélations successives, et nous en faisons partie. Des fois, on peut être tenté, mais alors, qu'est-ce qui est fiable? Je dis l'Église. Je vais vous faire un... Je ne pensais pas du tout à ces histoires de l'époque. Mais quand j'ai pensé à être prêtre, mais d'arriver, d'aller à un presbytère, et puis pas accueilli du tout, et je m'étais, et puis ça m'avait bloqué, par le prêtre. Et je m'étais dit, mais moi j'ai peur d'être prêtre et qu'un jour j'empêche des gens d'aller à Jésus. C'était ça ma question. Et puis j'avais été en Palestine, et j'ai eu la chance de pêcher sur le lac de Tibériade. J'avais sorti beaucoup de là pour avoir que les pêcheurs me prennent, il y a eu la tempête. Et toute la nuit, je regardais ce pêcheur en me disant, ce fou de Jésus, c'est respectueux. Au lieu de faire tout seul de façon parfaite, il a choisi un homme comme ça. Est-ce que tu acceptes qu'il te choisisse dans ta fragilité? Et puis une autre chose qui a beaucoup marqué ma vie, c'est le père Chevrier. Le père Chevrier, c'est le fondateur du Prado, j'en fais partie du Prado, moi aussi d'autres. Et dans le 19e siècle, de la révolution industrielle, il était scandalisé du fossé qu'il y avait entre l'Église et le peuple. Des gens, Dieu, c'est le proche, il s'est fait homme, il a médité la crèche à Noël dans son église. Et puis les hommes ne se savent pas aimer. Alors il aurait pu dire, bon, bah, puisque il y a plein de mal, je me tire, je m'en vais, j'abandonne. Et Père Chevrier ne dit pas ça. Il dit, alors, je me suis décidé à suivre Jésus de plus près, et mon désir est que vous aussi, vous serviez, vous suiviez Jésus de plus près, pour que les gens le connaissent. J'aime beaucoup cette réaction-là. Et quand il y a la tempête, on peut être tenté de douter de tout. On peut être tenté, et je le comprends, de s'en aller. Ou on peut se dire, nous sommes tous fragiles. Et il nous faut tous nous aider pour devenir une communauté vraiment signe de l'énergie. Et puis quand on a des difficultés, on se dit, là, je suis pauvre, je reconnais. Donc prions sans nous décourager pour tous ceux qui sont ébranlés par ces révélations successives et nous en faisons partie. Prions aussi pour ceux qui portent des failles plus fortes, plus visibles et qui blessent gravement d'autres. Prions pour les ressentir. Qu'un chemin de vie s'ouvre pour eux aussi. Amen.